La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Oui, on va inciter à la lecture Elisabeth, c'est l'ambition d'une association qui s'appelle Silence on lit. C'est la solution du jour pour pouvoir oublier les écrans à un moment par jour et je précise que
nous sommes en
journée de manifestation, manifestation à Paris est importante, il y a tout un quartier bouclé. La personne qui devait être avec nous en studio n'est pas avec nous parce qu'elle a été bloquée. Elle est en revanche au téléphone.
Ah oui, évidemment, évidemment. Alors, je vous raconte d'abord un petit peu Silence on lit, et après, nous aurons la joie d'écouter Danielle Salnave, sa fondatrice. L'idée de Silence on lit est née dans un lycée en Turquie, à Ankara. Chaque jour, à 13h35, une sonnerie délicate qui déclenche une période de 20 minutes pendant laquelle les élèves, mais aussi les enseignants, le personnel administratif, le personnel technique, tous se plongent dans la lecture d'un livre. C'est donc une très belle idée et c'est comme ça aussi que l'association Silence on lit est née en 2015 pour rendre la lecture familière. Bonjour Danielle Salnave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, même par téléphone. Vous êtes
je suis avec vous.
La cofondatrice de Silence on lit. En 2015, au moment où vous êtes à la présidence de la Foire du Livre de Brive, vous instaurez justement un temps de 7 minutes de lecture. C'est comme ça que ça commence.
Voilà, c'est comme ça que ça commence, à la Foire du Livre de Brive, où j'ai beaucoup d'amis, où je vais régulièrement, et où vraiment cette idée a été accueillie avec joie. Et nous l'avons mise en pratique immédiatement. Et puis ensuite, l'association s'est fondée et connaît une histoire qui va progressant.
Alors justement, cette histoire en progressant, racontez-nous ces 20 minutes de lecture quotidienne. Elles se passent partout, hein, pas seulement dans les écoles, vous êtes partout.
Oui, notre but, c'est de rendre la lecture familière, de la rendre à la fois agréable et nécessaire. Parce que nous répondons à un double défi. Celui de la révolution technologique qui donne des possibilités immenses, à condition de pouvoir en profiter, d'être formé, mais qui a aussi des effets parfois négatifs, trop d'addiction aux écrans. Alors nous voulons redonner goût aux mots, au plaisir de lire, au silence.
Et l'association se déplace dans les écoles,
voilà.
Un peu partout en France.
Un peu partout en France, en dehors de la France aussi. Nous avons commencé bien évidemment avec des académies à Paris, autour de Paris, mais aussi dans divers lieux en France. Mais aussi, nous avons été sollicités en Belgique, en Suisse. Nous avons des propositions pour la Réunion. Donc nous sommes aussi dans la francophonie. Et comme vous le disiez, les écoles, mais pas seulement. Nous avons une proposition pour l'instant de mettre en place dans le quartier des mineurs ce moment de lecture, 7, 15, 20 minutes, on verra, ça peut se négocier. À Fleury-Mérogis, des hôpitaux nous demandent aussi, parce que c'est un moment extraordinaire de ressourcement, d'apaisement, d'ouverture,
quand on vous demande, c'est-à-dire qu'il y a une personne de Silence on lit qui se déplace, voilà. Comment intervenez-vous ?
Alors, nous avons un site, www.silenceonlit.com. Sur ce site, on peut nous joindre. Il y a des numéros de téléphone. Il y a le moyen d'être en communication avec nous. Et à ce moment-là, une ou plusieurs personnes qui sont attachées à cette association se déplacent parce qu'il faut aider à mettre en place. Ça ne suffit pas de dire, bon, on va lire un quart d'heure par jour. Comment on va le faire? À quel moment de la journée? Avec quel livre? Et dans quelles conditions? Et il ne faut pas que ceux qui le mettent en place, ceux et celles qui le mettent en place, se découragent. Il faut qu'on y aille. On leur encourage. On leur dit, oui, continuez, allez plutôt comme ceci. Donc, ça demande un suivi. Et c'est cela qu'attend de ceux qui nous appellent. Ils attendent ça de nous, ce suivi.
Danielle Salnave, on a une question pour vous de Guillaume Gibaud, notre coach.
Oui, bonjour Daniel. À quand dans les entreprises ?
Bonjour.
À quand dans les entreprises finalement ? Quand est-ce que vous venez chez nous le matin pour nous dire qu'il faut prendre le temps de lire ?
Je serais ravie. Alors nous avons des municipalités qui le mettent en place. La municipalité de Creil, par exemple. Creil est une ville qu'on considère comme difficile. Il ne faut pas exagérer non plus, lui faire une réputation bien excessive. Elle n'est pas aussi noire qu'on dit. En tout cas, beaucoup d'écoles le mettent en place, mais la municipalité aussi. Mais des entreprises nous sollicitent parce qu'elles aiment avoir ce quart d'heure. Vous savez, on fait de la sophrologie, la gymnastique, la respiration. Et on pourrait aussi faire de la lecture tous ensemble. Ce qui compte, c'est d'être en silence et tous ensemble.
Et ensemble, hein, parce que vous rassemblez la communauté, hein, au-delà des membres qui la composent, quel que soit le statut, l'âge, la fonction.
Et vous savez, les enfants parfois n'ont pas vu des adultes lire. Mmh. Il y a un enfant dans un collège qui a dit « Madame, madame, la dame dans la cuisine, elle lit aussi. » Eh ben oui, c'est très bien. Évidemment. Tu vois que la dame n'est pas uniquement pour servir le repas au self-service.
Et oui, c'est important que tout le monde se retrouve autour de la lecture. Merci beaucoup, Daniel Salnav, d'être venu nous parler de Silence, on lit.
Je voudrais en profiter pour lancer un appel. Aidez-nous, aidez-nous. Nous avons des besoins financiers forcément considérables pour pouvoir mettre en place un réseau de personnes qui seraient disponibles. Allez sur le site www.silenceonlit.com. Vous verrez, c'est très facile de nous aider. Tout est indiqué. Il y a un onglet qui vous guide.
Et je précise que vous êtes membre de l'Académie française. Merci d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et on va s'intéresser à la journée internationale de l'éducation. Ça tombe bien, Elisabeth. À cette occasion, nous avons choisi de vous montrer les bancs de l'école, mais autrement. À tout de suite.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge.
Europe 1. Midi 14h. La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France Bouge. Ici, vous le savez, on aime ce qui fait changer le monde et qui fait bouger les choses. Or, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'éducation. Il y a chez nous des tas de jeunes qui se cherchent, qui ne se retrouvent pas dans les champs classiques. Alors, de nouvelles écoles qui apprennent autre chose, autrement, sont en train de se développer. C'est elles qui sont à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour, Komi Banga.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Artistiquement Riche. C'est la première école de rap en France. Il n'y en avait pas avant. Moi, je suis surprise. Elle a ouvert ses portes en septembre 2019.
C'est ça.
Comment vous est venue l'idée? Vous venez du milieu du rap.
C'est ça. Alors moi, je viens du milieu du rap. Alors ça fait 15 ans que je suis dans le milieu du rap. Alors j'ai développé plusieurs choses, puisque j'ai développé d'abord un label et un studio où j'ai pu travailler avec de nombreux artistes de l'industrie musicale, notamment Section d'Assaut, Mister You, voilà, pas mal d'artistes de ce genre. Et puis à côté de ça, j'ai développé tout un écosystème artistique où j'ai moi-même vendre des albums, une trentaine d'albums, 30 000 albums, excusez-moi, à travers la France, où j'ai fait pas mal de tournées, pas mal de concerts. Donc c'est comme ça que j'ai appris à peu près ce métier-là. Et puis, dans mon parcours, en fait, j'ai eu certaines difficultés et ça m'a donné l'envie à terme de pouvoir développer une structure qui puisse accompagner de jeunes artistes comme moi qui n'étaient pas forcément guidés dans leur choix de développement.
Parce que ce qu'on entend dans votre témoignage, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de règles. C'est un peu du fait maison.
C'est ça.
On se débrouille tout seul. On est obligé de trouver les solutions tout seul. Donc, vous avez voulu mettre des canaux qu'on puisse suivre.
C'est ça, c'est exactement ça. Mettre des canaux qu'on puisse suivre. Surtout mettre un cadre aussi. Et surtout apporter une structure qui puisse justement accompagner les artistes, en tout cas dans leur développement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Mis à part effectivement les maisons de disques et les labels. Mais il faut déjà avoir un certain nombre de followers, un certain nombre de gens qui vous suivent. Et il y a des gens qui d'abord, avant tout, veulent comprendre le métier et savoir à terme si effectivement c'est quelque chose qui leur parle, qui leur plaît. Parce que l'artistique, c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile. Et nous, on leur montre vraiment le côté, toute la difficulté et tout ce qu'il faut connaître pour devenir un jour peut-être un artiste bankable.
Notre coach a déjà une question pour vous, Guillaume Gibault.
Et du coup, dans la formation, j'imagine, est-ce que tu les formes à tous les métiers? Parce que tu parles de réseaux sociaux, c'est clé pour émerger, côté financier, côté technique, écriture, j'imagine, des textes, musique. Enfin, j'imagine qu'il y a en fait plein, c'est des entrepreneurs en fait aujourd'hui, les artistes.
C'est exactement ça, on les forme à de vrais entrepreneurs. Si demain ils doivent se développer en toute indépendance, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà comprendre le marketing. Qu'est-ce que c'est que le marketing? Parce que aujourd'hui, quand on est artiste, il faut le comprendre. Donc l'image, tout ce qui va avec. Comment générer de l'argent, du bénéfice avec sa musique. Donc comprendre les redevances, l'édition, ce genre de choses-là. Et puis tout l'aspect des acteurs de cette industrie-là, parce qu'il faut le comprendre aussi. Si on ne connaît pas, si on ne sait pas le rôle du producteur, de l'éditeur, du tourneur et ainsi de suite, on peut pas se positionner vis-à-vis de cette industrie-là. Donc c'est à nous aussi de leur apporter tout ce savoir-là. Voilà.
Combien de candidatures? Vous avez lancé un appel à candidature.
C'est ça. On a lancé un appel à candidature. On a eu 2300 candidatures.
Et combien de sélectionnés?
Et on a pris 12 élèves pour cette première année parce que c'est une année charnière. Il faut savoir qu'on est une jeune start-up, on se développe, on est une petite équipe. Donc voilà, c'est pas facile d'avoir des financements. Alors on a commencé avec 12, mais sur l'année d'après, là, on compte prendre entre 40 et 80 artistes.
Quel profil, quel âge, qui sont ces gens qui ont intégré cette école de rap?
Alors aujourd'hui, on a une moyenne d'âge qui est entre 18 et 24 ans. Pour vous expliquer, sur cette année, on ne voulait pas prendre de mineurs. Voilà, on voulait pas prendre de mineurs parce que c'était un peu compliqué. On avait besoin d'abord de comprendre certaines choses, comment les accompagner. Sur l'année d'après, on va commencer à 16 ans, donc avec dérogation des parents, bien entendu, parce qu'on a énormément de parents qui nous ont contactés, voilà, pour nous expliquer que leur enfant était passionné de rap et qu'ils avaient envie, voilà, d'avoir une structure qui puisse les accompagner.
Il y a des cours et du rap.
C'est
ça. Ou il y a que du rap.
Alors c'est des cours théoriques, bon, comme je vous l'ai expliqué, hein, sur tout l'aspect juridique, technique de cette industrie. Et puis effectivement, il y a la pratique à côté où du coup on les accompagne en studio, on les accompagne en concert, des placements éventuellement radio, voilà, tout le côté médiatique. Donc on les accompagne vraiment, c'est une réelle expérience. Autant c'est enrichissant, autant sur l'aspect, comme je vous l'ai dit, technique, et sur l'aspect pratique où c'est une réelle expérience.
Guillaume Gébeau.
Et du coup, ton modèle, du coup, t'es une école et tes 12 élèves payent, ou t'as un côté un peu label où finalement tu les fais pas payer, mais derrière, t'es contractuellement avec eux dans ce qu'on leur souhaite de pouvoir générer derrière, c'est là-dessus que ton modèle est basé.
Comme je l'ai expliqué, c'est un peu compliqué au départ de procéder sur ce genre de système-là. Donc aujourd'hui, ils payent, l'année est à 6 497 euros, l'année. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on développe du coup un système qui est basé aussi autour d'un label où on accompagnerait, on prendrait par la suite les artistes les plus prometteurs pour justement les accompagner et les aider encore à progresser dans cette industrie, parce que c'est pas sur un an réellement qu'on va pouvoir développer tout le potentiel qu'ils ont. Donc oui, effectivement, là c'est un autre système qu'on est en train de développer, et encore une fois, tout se fait petit à petit. Voilà.
Elisabeth, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se développent aujourd'hui. Quand on parle d'école, il y a vraiment des tas de choses très différentes,
oui,
de ce qu'on connaissait avant.
Il y a beaucoup d'innovations. Hein,
par exemple, des nouvelles formes d'enseignement qui commencent parfois dès la plus jeune enfance.
Hein. Oui, bah, c'est ce qu'on appelle maintenant la mise en place de cette fameuse discipline positive. Hein, c'est-à-dire qu'on sort complètement du rapport de force qu'on a pu connaître dans les années 70-80 entre enseignants et élèves. Parce que si on cherche toujours à nous corriger ou à nous sanctionner, ben, c'est là où on va pas s'épanouir et donc on va pas forcément mieux travailler. Là aujourd'hui, on est dans une tendance de discipline positive qui commence même dès la petite enfance. Alors je vous ai rapporté l'exemple d'une crèche qui existe depuis à peine un mois à Périgueux, dans le Périgord. Cette crèche elle s'appelle la crèche de Clos Chassin, et elle est articulée autour d'une pièce centrale, la fameuse pièce de motricité, mais même la construction, l'architecture de cette crèche a été conçue pour que les plus petits s'y sentent bien, avec des îlots de lumière très importants, avec des espaces repas adaptés, et chaque unité qui donne sur un patio extérieur, des salles de jeu, des espaces sensoriels avec des lumières, des sons, des ateliers pour laisser libre cours à l'imagination et à la créativité des enfants, une structure qui favorise l'autonomie. Et c'est ça la nouvelle forme d'éducation, c'est encourager l'autonomie dès le plus jeune âge.
Et on va voir que ça se développe, cette autonomie, justement avec nos invités aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Vous avez des préjugés, vous pensez que l'univers du code est masculin, et bien détrompez-vous, Ada Tech School vous prouve le contraire. À tout de suite.
Cet après-midi, on parle de nouvelles écoles pour apprendre autrement. Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous sur Twitter, on attend vos réactions avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler, Raphaël, au 3921.
Aller à l'école, choisir un cursus, des études supérieures. C'est vrai que c'est compliqué hein, quand on est jeune, et les filières où il faut apprendre des cours par cœur ne conviennent pas forcément à tout le monde, et surtout l'enseignement théorique coupe parfois du monde du travail. Pourtant, il existe des solutions. Bonjour Chloé Armani.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Ada Tech School. C'est une école de code pensée pour les filles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des préjugés. On pense que le code et les filles, ça ne fait pas bon ménage.
Alors, plutôt que penser pour les filles, on dirait presque même féministe. Parce que penser pour les filles, ça ne veut pas dire qu'on a fait une pédagogie qui est différente. En revanche, ça veut dire qu'on a conçu l'école, que ce soit dans notre communication, dans le réseau qu'on a fait, dans le réseau qu'on a mis en place avec les entreprises, dans notre charte intérieure, pour que on puisse déconstruire un certain nombre de biais, de barrières psychologiques qu'ont les femmes pour s'orienter dans ces carrières.
Lesquelles ?
Qui sont des barrières. Alors en amont, ce sont des barrières qui sont il y a une certaine construction sociale, des barrières culturelles, genrées. On imagine que pour être développeur et programmeur, il faut être un hard gamer qui a démonté son ordinateur à 6 ans, plutôt solitaire. Donc voilà. on a tendance à pas se, en tant que femme, de pas se reconnaître dedans, mais aussi beaucoup d'hommes aussi à ne pas se reconnaître dedans. Donc c'est dommage parce que en fait on perd un certain vivier de talent en fait qui se reconnaissent pas dans ces clichés là. Et puis ensuite la deuxième partie, c'est aussi une fois que on arrive à orienter ces personnes, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des formations ou dans le milieu. On observe notamment pour les femmes qu'il y a 57% des femmes qui quittent le milieu informatique à mi-carrière parce que pour des problèmes de culture et d'environnement de travail. Donc il y a un sujet de à la fois des constructions en amont de biais et puis à la fois ensuite plus en aval de proposer un environnement d'apprentissage dans lequel on se sente bien.
Alors justement, le projet il démarre en 2018, il y a un embryon d'école à ce moment-là et vous développez, vous commencez à donner vraiment des cours pratiques. On est uniquement dans la pratique, pas dans le théorique.
Absolument. L'école a ouvert en octobre. C'est un apprentissage qui est 100% par la pratique parce que l'apprentissage, en fait, c'est de l'expérimentation. Donc c'est essayer, se tromper et réessayer. Et donc du coup, nous, il n'y a absolument aucun cours. On n'est pas dans une classe, on n'écoute pas un prof. On propose des projets et des exercices d'approfondissement à un groupe et les élèves se placent en sous-groupe pour travailler. Donc il y a aussi, ça c'est important de le dire, pas de prérequis techniques à l'entrée. C'est au travers des groupes en fait que des petits niveaux en fait asynchrones vont se former et les élèves vont avancer progressivement, vont découvrir les problématiques de l'informatique au fur et à mesure de leur expérimentation dans les projets qu'on propose.
Guillaume Gibault,
ça fait évidemment écho à votre projet qui est top. Est-ce que vous êtes rapproché de l'écosystème qui est proche, hein, qui sont les startups? Il y a une initiative qui s'appelle Sista, qui est portée par Céline Lazorte, qui montre qu'effectivement il y a que, je crois, c'est 2 ou 3 dossiers sur 10 qui sont portés par des entrepreneurs femmes et qui sont beaucoup moins financés que les entrepreneurs hommes, et c'est un peu, je dirais, la suite logique. Est-ce que vous bossez main dans la main avec eux? Est-ce qu'il y a un choc de filière à faire pour que ces sujets bougent?
Avec Cissé, alors que je connais bien les fondatrices, donc du coup c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup discuté. Après, au niveau des startups, effectivement nous on a construit un réseau d'entreprises. Alors la première chose, c'est de valider avec elles qu'elle porte également ce combat aussi d'engagement et d'inclusion. Donc nous, on travaille aujourd'hui avec des plus petites startups, mais aussi des grosses boîtes tech comme Blablacar, Trainline, avec qui à la fois on travaille sur des problématiques de recrutement, mais aussi avec des problématiques de co-construction, de qu'est-ce que c'est en fait de avoir une culture inclusive au sein de l'entreprise.
Parce que ça, c'est deux sujets, il y a court terme et le long terme.
Exactement.
Qui est-ce qui vient vous voir? Qui est-ce qui vient dans votre école aujourd'hui?
Alors, je précise aussi que les candidatures qu'on reçoit et notre corps d'apprenants est mixte. On a 70% de candidatures féminines. En grande partie, ce sont des personnes en réorientation. Pourquoi? Parce que 80% aujourd'hui des étudiants se réorientent en fait en France, soit déçus d'un parcours, soit pour une composition plus précise de leur bagage technique. Et donc nous aujourd'hui, la moyenne de nos apprenants a 25 ans, 70% de jeunes femmes. Et ce qu'on observe en fait, c'est justement ce besoin de apprendre à créer, apprendre par le faire, apprendre ensemble, donner un petit peu du sens aussi à ses études et à son apprentissage, qui sont, nous, une des valeurs centrales de notre approche.
Justement, vous avez aussi la possibilité, vous ouvrez un peu les portes pour que des gens viennent découvrir. Hein. Il y a des stages qui sont effectués pendant les périodes de vacances pour que justement, on n'ait pas ces barrières sur la question du code.
Absolument, absolument. En plus, en tant que nouvelle école, nous, le meilleur moyen de nous faire connaître, c'était d'ouvrir les portes et de faire rencontrer les personnes, de nous faire connaître même humainement, et puis ensuite effectivement de proposer des ateliers des ateliers d'initiation au code. Donc on propose à peu près une fois par mois un atelier, écrire sa première ligne de code pour essayer justement de sauter ce pas qui peut être parfois intimidant et parfois se dire bah non, en fait on remarque que beaucoup de personnes n'osent pas candidater parce qu'elles se disent que c'est pas fait pour elles, et il suffit d'écrire une ligne de code pour qu'en fait on se rende compte que c'est fait pour soi.
Ça veut dire que je pense peut-être que je n'en suis pas capable, mais que vous pouvez me prouver le contraire.
C'est sûrement un biais, Raphaël.
Ouais, c'est sûrement, sûrement. Elisabeth, les écoles commencent à enseigner les pédagogies critiques de manière générale.
On est toujours dans cette tendance de on va tout remettre à plat et on va changer notre façon de faire pour que chacun s'épanouisse et surtout que chacun puisse trouver sa voie qui lui correspond. Et on les appelle les critical pédagogies ou les pédagogies critiques. Elles se sont développées aux États-Unis depuis les années 80. Nous, ça arrive tranquillement en France. L'idée de ces pédagogies, c'est de se dire la finalité de l'école, c'est pas de préparer les adultes en se fondant au moule de la vie professionnelle, mais plutôt l'inverse. On va leur donner les clés pour changer de monde. Alors, on va aborder dans ces pédagogies critiques le racisme, le sexisme, l'homophobie, et les élèves sont encouragés à prendre conscience des rapports de domination qui structurent la société pour mieux les annuler et créer tous ensemble une société plus juste. Ça paraît un peu idéaliste, mais c'est possible. Allez, on y va.
On y va et on continue ensemble aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Quand les jeunes sportifs n'arrivent pas à percer, c'est compliqué pour eux de reprendre un cursus classique. Alors, la Tony Parker Adéquate Academy a ouvert ses portes. À tout de suite.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge. Et à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, on vous parle cet après-midi des nouvelles écoles. Découvrez-les avec nous et dites-nous ce que vous en pensez via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921, Raphaël.
On a tous autour de nous, je suis sûre que c'est votre cas aussi, hein, Céline, des enfants qui rêvent de devenir basketteur, footballeur, professionnel, rugbyman. Mais combien iront au bout? Et même quand ils sont remarqués, ils ne sont pas certains d'aller jusqu'à la carrière internationale dont il rêve. Bonjour Xavier Lucas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président délégué de la Tony Parker Adéquate Academy qui se trouve à Lyon. Vous êtes enseignant de tennis, hein, je crois, à la base,
oui.
Comment est-ce que vous arrivez dans ce projet Tony Parker Academy, forcément avec Tony Parker?
Alors oui, avec Tony Parker, puisque le projet est bien né de lui et de sa volonté d'aider la jeunesse, et plus particulièrement, la jeunesse des sportifs qui aujourd'hui essayent, ont le doux rêve d'être champions, et qui malheureusement pour 80 à 90% d'entre eux ne vont pas l'être. Pour autant, ces jeunes-là ont vocation et développent depuis le plus jeune âge, grâce à la pratique de leur passion, des qualités qui leur permettront d'être des personnes compétentes dans le milieu de l'entreprise et qui aujourd'hui de plus en plus les sollicitent.
Donc vous avez à vous des jeunes qui viennent parce que ils n'ont pas réussi à être retenus par tel ou tel club, qu'ils sont en déception et que finalement ils ont besoin de trouver
en
une...
En fait, l'axe d'entrée à l'académie, il est très clairement... aussi basé sur l'exploitation de la performance. Nous, aujourd'hui, on a vocation à tout mettre en œuvre pour leur donner le système qui va leur permettre de les aider à se définir un projet de vie en s'appuyant sur leur passion. Et dans ce cadre-là, on a mis en place trois piliers essentiels dans cette construction. Le premier pilier, c'est leur passion, c'est la pratique de leur discipline. Et aujourd'hui, par exemple, on accueille au sein de l'académie, pour cette première année, du basket, bien évidemment, mais on accueille également des équipes de e-sport. Et demain, d'autres disciplines, la musique dont on a parlé tout à l'heure, sera vraisemblablement la prochaine passion qui sera intégrée dans ce système-là. L'objet, c'est de faire en sorte que cette passion se pratique, qu'elle continue de faire partie de l'équilibre de ces jeunes et de continuer de développer tous les mécanismes qui leur seront nécessaires un jour ou l'autre pour aller dans le monde professionnel. Le deuxième pilier essentiel pour nous, qu'on a mis en place, c'est un lien permanent avec le monde de l'entreprise. Au même titre que la passion les construit et leur permet d'accepter de souffrir à l'entraînement, de faire des efforts, de travailler avec une multitude de personnes, ils y arrivent parce qu'ils ont compris depuis longtemps qu'il y avait un objectif à atteindre. Et dans ce cadre-là, pour nous, l'idée du lien permanent avec le monde de l'entreprise, c'est de leur faire découvrir le milieu dans lequel ils vont vraisemblablement évoluer plus tard. Et si on peut en plus susciter des vocations, ben j'ai envie de dire qu'on va gagner. Donc ça, c'est notre deuxième pilier.
Guillaume
et
Gibault.
Le troisième pilier, pour terminer, est le pilier de la construction qui amène de la passion au monde de l'entreprise. Ben, c'est tout le lien avec la scolarité et l'accompagnement nécessaire pour amener ces jeunes vers un avenir qu'on leur espère le plus épanoui possible, puisque je crois que c'est ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission, c'est cette volonté d'être de bienveillance et d'épanouissement dans le monde professionnel.
C'est sûr.
D'un point de vue un peu naïf et connaissant pas les filières, sport-études, c'est, vous êtes en complément, ça marche pas, enfin, comment est-ce que vous vous greffez par rapport à ce truc qui d'extérieur,
ça y ressemble.
Pour comprendre, aujourd'hui, il existe des sport-études. Il existe des centres d'entraînement performants, il existe des écoles, qui ont quelquefois du lien avec le monde de l'entreprise. Ce qui n'existe pas, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est une entité qui regroupe l'ensemble de ces éléments-là.
Donc il y a un cours scolaire le matin, puis il y a 1h30 de passion en fin de matinée, et même système l'après-midi, c'est ça ?
En fait, on a créé toutes les conditions pour optimiser au départ le double projet du jeune. Être le plus performant et le plus motivant dans sa passion et lui permettre de continuer à se construire. En fait, on n'oublie pas qu'il y a d'abord un individu avant d'avoir un sportif ou un jeune du e-sport ou de la culture. Et dans ce cadre-là, on a créé les conditions qui font que là où d'habitude vous avez école le matin et sport l'après-midi, quand vous avez la chance d'avoir des horaires aménagés, nous on a plutôt créé des temps plutôt courts mais répétés qui permettent en permanence d'allier les deux éléments. Et dans ce cadre-là, en fait, ils ont école et sport ou e-sport le matin, et ils ont école et e-sport l'après-midi.
Combien de jeunes aujourd'hui et quel âge ont-ils ?
Alors aujourd'hui, on a ouvert un lycée privé hors contrat intégré à l'académie, ce qui nous permet d'accueillir des jeunes à partir de 15 ans. Et quelquefois, si le niveau de performance est très élevé, que ce sont de forts potentiels, on a accueilli dernièrement une jeune lituanienne du basket qui a 14 ans et pour qui on met exactement les mêmes ingrédients pour l'amener à la fois au plus haut niveau, puisque la volonté, c'est tu rentres à l'académie, tu sors avec un job. Le job peut très bien être, et c'est, je pense, le rêve de nos jeunes au départ, d'être le plus performant dans son domaine. Donc pour la lituanienne, je pense très clairement qu'elle a tout le potentiel pour être professionnelle et qu'elle le sera. Mais ça n'empêche que nous, on veut lui amener tous les ingrédients nécessaires pour affronter ce monde-là dans les meilleures conditions. Et un jour ou l'autre, elle sera amenée à travailler.
Ce bagage-là lui sera utile, quoi qu'il en soit.
Et on veut valoriser ce que la passion leur permet de mettre en place pour en faire des gens les plus épanouis possibles. Et dans ce cadre-là, on travaille aujourd'hui avec une société, la société Adéquate, qui est un leader dans le monde du recrutement et qui nous accompagne au quotidien en parallèle de la formation des jeunes scolaires. Et ils nous accompagnent pour les guider et les amener vers le monde professionnel pour leur faire découvrir, bien évidemment. Mais on a des interventions de coach en entreprise, on a des interventions collectives sur le milieu professionnel pour les aider.
On reste ensemble et on continue à parler éducation autrement aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1.
Et on attend vos questions, 3921, Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous, bien sûr. À tout de suite.
7 après-midi dans la France bouge et à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, Raphaël, on parle des nouvelles écoles avec vos invités.
Nous sommes avec Comi Bingard, rappeur et cofondateur de l'école Artistiquement Riche. C'est la première école de rap en France. Chloé Hermari, fondatrice de Adatech School, école de code pensée pour les filles. Et Xavier Lucas, président délégué de la Tony Parker Adéquate Academy, école innovante alliant passion, études et emploi. Notre coach, c'est Guillaume Gibaud, fondateur du Slip français. Bien sûr, à mes côtés, Elisabeth Assayag. On parle sport il y a quelques instants, remuer les jambes pour faire marcher la tête, ça fonctionne, Elisabeth.
Mais ça fonctionne avec des nouveaux concepts. Il y a un concept qui s'appelle Learn O, qui a été expérimenté dans une école de Montbéliard. Et c'est encore une méthode pour apprendre autrement. C'est-à-dire que il y a pas besoin de salle de classe, pas de chaise, pas de table. Ils travaillent seuls ou en groupe, ils sont surtout mobiles. Et là, ils peuvent faire des soustractions, de la géométrie, des additions en bougeant. C'est sous la forme d'ateliers qui durent un peu plus d'une heure. Et ils apprennent ou ils révisent des additions, des soustractions, des suites logiques et même des figures géométriques en bougeant, c'est-à-dire que l'élève est muni d'un doigt entre guillemets électronique et d'une carte, d'une puce, donc ça peut concerner toutes les disciplines. Et ensuite, il doit réaliser avec diverses figures une tâche demandée et il va biper de balise en balise en effectuant la figure demandée. Et en fonction du résultat, l'élève passe à autre chose ou alors il recommence jusqu'à ce qu'il obtienne la bonne réponse. Et à la fin, il paraît que les élèves veulent continuer, ne veulent pas s'arrêter.
Et oui, ça ressemble à un jeu, donc forcément. C'est plus attractif. Moi, j'ai une question pour tous les trois. Je voudrais savoir, finalement, aujourd'hui, vous êtes en train de vous développer. Ça a été difficile de s'imposer dans ce paysage. Quand on pense éducation, on pense à quelque chose d'extrêmement cadré, d'extrêmement bordé. Est-ce que quand vous arrivez avec un projet innovant, on vous ouvre les portes ou on vous regarde un petit peu de manière défiante?
Je pense que pour n'importe quelle entreprise qui démarre, c'est toujours compliqué. de s'imposer et d'imposer son idée. Mais je pense que les gens aussi ont besoin, à un moment donné, de voir que c'est crédible, qu'il y a des résultats. Et en l'occurrence, je pense que pour chacun d'entre nous ici, il y a des résultats. Il y a des gens qui sont attirés par le système de formation qu'on leur propose. Donc forcément, du coup, on nous prend un peu plus au sérieux. Et c'est que, voilà, avec le temps qu'on arrive à se développer et à s'imposer, je pense.
Chloé?
Je pense qu'il y a une grosse demande aujourd'hui générationnelle qui s'interroge avec une information qui est accessible partout sur des défis environnementaux, sociétaux, qui est du coup d'avoir un système éducatif qui change et qui lui ressemble. Et donc, au contraire, moi, j'ai été très étonnée, agréablement surprise de l'accueil qu'on a eu des personnes qui cherchent en fait un système éducatif qui leur ressemble, qui soit plus adapté avec eux, leurs besoins et les ambitions qu'ils ont aussi pour demain, en fait.
Xavier?
Oui, dans la même lignée, c'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui chacun a compris que le monde bouge et que un seul système tout aussi performant soit-il ne suffit plus et que en face de ce système, il y a une multitude d'individus différents qui développent des qualités indéniables et dont il faut essayer de les exploiter du mieux possible. Et pour nous, même si on a un côté innovant et une approche un peu différente du système traditionnel, en tout cas nos interlocuteurs du monde de l'éducation sont plutôt positifs parce que j'ai aussi le sentiment qu'ils ont à travers nous la possibilité de faire des choses que eux n'ont pas toujours la possibilité de faire. Et c'est en ça que pour nous c'est intéressant, c'est que nous on dit pas attention on va réinventer l'éducation, on est tous ensemble, sauf qu'on a des profils de jeunes différents et on a envie de mettre un système qui s'adapte à eux plutôt que l'inverse. Et dans ce cadre-là, je crois qu'on arrive à tisser des liens forts. Nous, on a 10 programmes en lien avec des universités,
en lien avec des grandes écoles aussi.
Et qui finalement ont l'habitude d'être dans un système traditionnel et qui finalement s'ouvrent. Donc je pense qu'il y a des volontés communes, tant dans le monde de l'éducation que dans les familles et les jeunes. Après, faire croire que c'est facile, ça ne l'est pas de toute façon.
Rien ne l'est de toute manière. Guillaume?
Moi, j'avais une question un peu, pas technique, mais pour Comi Xavier. Est-ce que vous formez donc les gens que vous voyez qui ont du talent, qui génèrent peut-être une audience sur les réseaux sociaux, qui ont des parcours inspirants, aujourd'hui, en fonction de l'émergence de leur talent, est-ce qu'ils vont réussir à en vivre complètement ou pas, financièrement? Est-ce que vous les formez à essayer de gagner un peu d'argent par leur présence sur les réseaux sociaux, en partant avec des marques, ou à devenir un peu conférencier dans les entreprises? Est-ce que vous les formez sur cette espèce de nouveau métier? Je vois Comi qui est hoquage dans la tête,
je suis totalement d'accord, parce que c'est vrai qu'on a des profils, en tout cas chez nous, où justement ils pensent que voilà, le fait qu'ils aient un talent et un potentiel, c'est ça qui va leur ramener tout l'aspect bénéfice, argent, tout ça. Alors qu'en vrai, comme le disait si bien Xavier, ils développent en vrai d'autres aspects qui leur permettront de générer forcément de l'argent autrement.
Ils
n'en ont pas forcément conscience sur le moment. Et ça, c'est à nous, en tant que professionnels, de leur apporter cette explication-là et cette vision-là.
Elisabeth, je voudrais qu'on termine avec des comptes Instagram qui racontent la vie de ces nouvelles formes d'enseignement.
Oui, il y en a énormément de comptes Instagram qui racontent la vie de ces maîtresses. Ça aussi, c'est nouveau. Et il y en a un que j'aime tout particulièrement, c'est le compte Maîtresse Flexible, tout attaché, maîtresse au pluriel, flexible. C'est un nouveau compte qui est tenu par 3 maîtresses. Il y a écrit sur le compte Marianne, Yael et Marie, qui chaque jour nous montrent l'efficacité de ces nouvelles formes d'apprentissage. Je vous donne 2-3 exemples. Par exemple, ils font en CE1, la classe informelle, c'est la possibilité 3 fois par semaine de présenter à la classe ce que l'on veut. Un objet, un livre, un tour de magie, un instrument. L'objectif, c'est que l'enfant se sente bien en classe. Ou alors, en CP, on commence par manipuler des perles, on rapporte des perles de la maison, pour additionner, pour soustraire, pour s'initier comme ça au monde des mathématiques ou encore aux grandes sections. En grande section, ils ont inventé une nouvelle forme de langage grâce à un livre qui fait des sons, pour là aussi commencer à s'initier à la lecture.
Et oui, c'est important pour les enfants de leur donner des clés pour s'ouvrir au monde de demain, et c'est ce que vous faites. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1.
On va rester ensemble. Connaissez-vous l'anisette? C'est ce que fabrique depuis 1884 Cristal Liminia. C'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, c'est Cristal Liminiana. Elle existe depuis 1884. Bonjour Marie-Stella Vassereau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de ce qui est dans le sud une institution, hein, on peut le dire. C'est votre arrière-grand-père, Manuel, qui a quitté l'Espagne, qui est parti, comme beaucoup de pieds noirs, en Algérie. Et c'est là qu'il se prend d'amour pour l'anisette.
Oui, en fait, donc il a rejoint un cousin qui était déjà installé à Alger, qui avait ouvert un bar. Et beaucoup d'Espagnols déjà installés à Alger fréquentaient le bar du dit cousin et étaient nostalgiques de toute la gastronomie espagnole. Et donc l'anisette est en fait une recette espagnole. Oui. Donc mon arrière-grand-père a...
La paloma, c'est ça ?
La paloma.
Il y a une différence entre la paloma et l'anisette qu'on connaît aujourd'hui ou...
Non, en fait, la paloma, c'est... En Espagne, on l'appelle comme ça. Hein, donc, la paloma, ça veut dire la colombe. En France, on appelle ça l'anisette.
Alors, il va, évidemment, avec l'indépendance, arriver à Marseille. Et là, finalement, il va racheter une autre institution, la distillerie d'Étienne Reynaud, avec les marques, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, il recommence l'aventure de l'anisette.
Voilà, c'est ça. Donc, il rachète la distillerie de la Méditerranée à Marseille. Il redémarre la fabrication de l'anisette, du cristal anis à Marseille. Et en même temps, il continue aussi de commercialiser les produits qu'il avait rachetés dans cette distillerie marseillaise.
Alors, vous dites cristal anis, on dit anisette, on dit aussi pastis. Là, on arrive chez les puristes. Quelle est la grande différence ?
Alors, donc l'anisette, c'est la dénomination du produit et notre marque, c'est le cristal anis. Le pastis, donc, est un autre produit. La différence entre les deux, c'est que l'anisette, c'est que de l'anis. Et dans le pastis, il y a au moins de l'anis et du réglisse.
Alors, c'est une histoire de famille, hein, puisqu'on a commencé avec votre arrière-grand-père. Votre grand-mère a repris, puis votre mère. Aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes arrivé sur le tard, finalement, dans l'aventure. Vous dites, moi, j'ai fait ma crise de la quarantaine.
Oui, je suis arrivée dans la société il y a 7 ans. J'avais une école de langue avant. Et puis, à 40 ans, voilà, je me suis dit que... Mon tour était venu.
Votre tour est venu et vous êtes arrivé avec votre bagage. Vous avez eu envie d'apporter votre touche personnelle. Vous avez créé vos produits.
Oui. Donc, évidemment, j'ai quand même voulu conserver l'identité de la société, hein, parce que la complexité, quand on reprend une entreprise qui a traversé 4 générations, c'est de savoir conserver les valeurs qui, en fait, sont les fondements de la culture de l'entreprise. Mais il faut aussi savoir... Regardez l'avenir et osez quand même des changements.
Guillaume Gibault, notre coach.
Moi, j'ai une question. Dans votre métier, il y a des énormes groupes français qui sont très présents, très puissants partout dans le monde. Comment est-ce qu'on existe à côté de cela? Et est-ce qu'au final, aujourd'hui, on parle beaucoup de circuits courts, de local, de valeurs, de petites boîtes? Est-ce que vous sentez vous avez le vent en poupe? Et comment est-ce que vous vous situez dans cette compétition autour de vous?
Oui, c'est clair que si on arrive à continuer d'exister et à se démarquer au milieu des mastodontes, c'est justement en marquant cette identité-là à la fois d'une entreprise familiale qui est toujours ancrée aussi dans le territoire marseillais. Donc tous nos fournisseurs sont locaux, enfin en tout cas
sont
français.
Les étiquettes sont faites à Gemnos, c'est ça ?
Oui. Donc nos graphistes sont marseillais. Les étiquettes sont en fait à Gemnos. En fait, tous nos fournisseurs sont locaux. Et on est aussi dans Marseille. On est plus beaucoup à faire du pastis de Marseille à Marseille, en fait.
Alors, le pastis, c'est le pastis Focea, le pastis Massilia, et puis le pastis un marseillais qui est avec nous.
C'est ça.
Plus le cristal Limignana.
Voilà.
Au niveau justement du développement, comment est-ce que vous arrivez à exister à côté des grands ?
Et question peut-être supplémentaire, je me permets, est-ce que le tourisme industriel, est-ce que vous faites visiter votre atelier ? Est-ce que c'est quelque chose que les gens, les touristes à Marseille viennent voir ? Est-ce que c'est une curiosité en plus et ça aide effectivement le développement ?
Oui, on a démarré les visites de l'entreprise il y a 3 ans maintenant, un petit peu plus même. Et on a été très surpris parce que ça a très vite marché. Alors au départ, c'était... uniquement des Marseillais qui venaient, qui étaient vraiment curieux de savoir ce qu'on faisait. Alors, ils sentaient l'anis dans le quartier, mais ils n'imaginaient pas que derrière les murs, il y avait une ligne d'embouteillage. Et puis, petit à petit, on a été présents un petit peu sur des blogs, on a commencé à parler de nous. Et aujourd'hui, on a vraiment à la fois des touristes français, mais de plus en plus de touristes étrangers qui viennent.
Génial.
Puisqu'on fait la visite dans plusieurs langues.
Dans plusieurs langues. Vous livrez aussi les... J'ai vu les cavistes à vélo dans Marseille, vous-même.
Oui, Ouais. Ben, c'est un petit peu compliqué de circuler en voiture à Marseille.
Et puis, ça permet de garder le contact aussi.
Complètement, c'est ça. Ça permet, les cavistes, quand il leur manque, ils ont un client, il leur manque trois bouteilles, ben, je prends mon vélo et je vais livrer trois bouteilles de rhum ou trois bouteilles d'anisette.
1 200 000 bouteilles fabriquées par an, c'est ça le chiffre?
C'est ça.
Avec, évidemment, je suppose, plus d'anisette aujourd'hui que le reste.
Oui,
comment
oui,
ça
oui.
Se répartit?
Les anisées restent notre cœur de métier. Hein, donc, aujourd'hui, on fait 70% à peu près de notre chiffre d'affaires avec trois produits. Donc, le pastis à Marseillais, le cristal anis qui reste le produit phare. Et on a aussi la version sans alcool de l'anisette. Donc, sans alcool, sans sucre, sans colorant, sans conservateur. Et c'est vraiment un produit qui marche de mieux en mieux. Hein,
qui marche bien en France, qui marche aussi à l'export.
Alors, qui marche à l'export, qui commence à marcher à l'export. Oui, oui, complètement.
La suite, c'est quoi, justement? Vous allez avoir une cinquième génération qui va prendre la suite?
Bah écoutez, ma fille déjà, ma fille aînée commence à m'aider dans les visites de l'usine, puisqu'elle est trilingue. Et donc, elle m'aide régulièrement dans les visites.
Guillaume.
Et Marseille, il y a un vent nouveau qui souffle en ce moment, plein de projets immobiliers, culturels. Est-ce que vous arrivez à mettre un peu vos pions là-dedans et à mettre un peu des bouteilles à droite à gauche dans tous ces nouveaux projets qui sortent?
Oui, ben on est présent vraiment de plus en plus dans le tissu local marseillais. Les gens commencent à se rendre compte qu'on reste une entreprise familiale, qu'on reste à Marseille. Une entreprise aussi tenue par une femme, finalement aussi... C'est courant, mais en tout cas, dans ce milieu-là, pas tant que ça.
Ouais, trois générations de femmes, même.
Oui. Ouais. Ouais, ouais.
C'est le Cristal Liminiana 1884. C'est l'entreprise qui va bien. Merci beaucoup d'être venu nous raconter son histoire, Marie-Stella Vassereau. Merci à Guillaume Gibault, qui était notre coach aujourd'hui, fondateur du Slip français. Elisabeth, Céline.
Très bonne fin de semaine.
Lundi, évidemment, à midi sur Europe 1.
À lundi, Raphaël Duchemin. C'était La France bouge avec AXA Prévention, accompagnement des chefs d'entreprise, santé et sécurité des salariés. Retrouvez un dispositif de prévention gratuit sur le site axaprévention.fr. On reste sur Europe 1 dans un instant. Christophe Ondelade vous raconte l'histoire de la veuve noire de Cavignac.